Fréquence Mistral, information.
On se retrouve aujourd'hui en direct de l'antenne de Manosque pour parler de l'eau. Donc, je reçois Camille Feller, maire de Montlot et aussi membre du collectif de l'eau Lure-Fort-Calquet. Bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse nous présenter le collectif.
Voilà, donc depuis quelques mois, il y a un collectif qui s'est constitué pour militer pour garder l'eau en régie publique sur le pays de Fort-Calquier-Montagne-de-Lure, puisque actuellement, il y a quand même 10 communes qui ont une gestion publique de l'eau, c'est-à-dire que les administrés sont des usagers de l'eau. Le service est rendu par la commune, par l'intermédiaire des employés communaux, des élus et bien sûr des plombiers et techniciens locaux, puisqu'il y a quand même des choses un peu complexes à effectuer. Et là, on va peut-être, en tout cas c'est la volonté de la communauté de communes, en être dépossédé et que tout ça soit passé privatisé, soit passé à un délégataire. C'est ce qui pour l'instant est dans les tuyaux, si on peut dire, à partir du 1er janvier 2025. Et le collectif s'est constitué pour surtout demander une concertation publique avant que les décisions soient prises. Bon, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Mais puisque ça n'a pas eu lieu, on a décidé d'organiser nous-mêmes des réunions publiques afin d'informer la population de ce qui se passe chez nous, mais aussi de ce qui se passe ailleurs et des différentes solutions qui sont envisagées dans cette période où la loi nous demande de transférer la compétence eau et assainissement aux communautés de communes pour le 1er janvier 2026. Les solutions envisagées par les différentes communautés de communes sont très différentes et on veut en débattre avec la population et aussi les élus, bien sûr.
Effectivement, donc la genèse, et puis rappelons-le, vous êtes vous-même élu, donc vous êtes au cœur de la question, la genèse de la création de ce collectif. Donc vous êtes ici aujourd'hui pour nous annoncer des tenues d'événements publics où il y aura des documentaires et des débats publics et nous y reviendrons après. Ce sera donc le 2 février à Montlot et le 16 février à Niozel. On reviendra plus précisément sur les intervenants et le programme de ces réunions. Mais surtout, ce collectif naît donc à la base du fait qu'il y a une obligation, une nouvelle obligation, qui est un transfert de compétences quant à la question de l'eau pour les communes. Donc, de quand est-ce que ça date? Quels sont précisément, avec des mots simples, parce que c'est des termes très techniques, allons-y.
Alors, c'est ce qu'on appelle la loi NOTRe. Et normalement, donc ça date de 2015, le transfert aurait dû avoir lieu à partir de 2020. Mais de nombreuses associations d'élus, notamment les élus de la montagne, mais aussi les maires ruraux, étaient tout à fait opposés à ce transfert et ont gagné en fait un sursis, puisque le transfert a été reporté en 2026. Le transfert, c'est une chose. On peut perdre la compétence, c'est-à-dire qu'elle soit transférée aux communautés de communes ou à des syndicats. Et pour l'instant, l'association des élus de la montagne demande à ce que ce soit plutôt à des syndicats départementaux. Et le mode de gestion en est une seconde. C'est-à-dire que le fait de transférer la compétence à la communauté de communes ne veut pas forcément dire privatiser le mode de gestion. D'ailleurs, autour de nous, autour de vous, on voit que l'agglomération de Manosque, la DLVA, revient en gestion publique avec une régie. C'est pareil pour l'agglo de Digne, c'est pareil pour l'instant pour la ville de Sisteron. Donc ce qui se passe sur la Comcom de Fort-Calquier-Montagne-de-Lure est tout à fait à contre-courant de ce qui se passe autour de nous et même au niveau national, puisque des villes comme Nice avec Estrosi et les intervenants que l'on reçoit viennent de Lyon, donc de l'agglomération de Lyon, sont revenus en régie publique, Aix-en-Provence aussi. Donc on voit que quand même beaucoup d'élus voient l'intérêt d'une gestion publique de l'eau. Malheureusement, pas notre président de communauté de communes et pour l'instant pas la majorité des maires. Mais les habitants ne sont pas au courant de ce qui se trame.
Parce que du coup, la communauté de communes, donc là j'ai sous les yeux, c'est donc Lure-Fort-Calquier. Donc c'est Cruisse, Fontienne, Fort-Calquier, Lardier, Limans, Lurs, Montlot, Niozel, Ongles, Pierre-Rue, Réveste-Saint-Martin, Saint-Étienne-les-Orgues et Sigons. Donc c'est 13.
Oui.
C'est 13 communes dans la communauté de communes. Et aujourd'hui, donc le président de la communauté de communes, c'est David Géant, maire de Fort-Calquier. Et la mairie de Fort-Calquier, elle a déjà décidé de passer à une régie privée, à Une gestion privée.
La commune de Fort-Calquier est déjà en gestion privée depuis plus d'une quinzaine d'années. Mais ils ont décidé de continuer, mais ça c'est leur problème on va dire, à rester avec leur délégataire, donc, qui est la SEM. Ils viennent effectivement de signer un nouveau contrat pour 6 ans. Mais ce qui est plus étonnant, c'est qu'ils entendent imposer cette solution unique à l'ensemble des communes de la communauté de communes. Ce qui n'est pas du tout une obligation par la loi. On peut très bien avoir plusieurs modes de gestion sur une même communauté de communes.
C'est vrai qu'on en parlait tout juste avec une citoyenne qui disait qu'elle avait entendu une obligation. Elle croyait que c'était une obligation de passer au privé. En fait, c'était une obligation de délégation. Et pas du tout, il y a le choix public-privé.
Oui.
Parce qu'il y a l'acronyme DSP, c'est délégation de services publics.
Public.
Ok. Et donc, du coup, aujourd'hui, le point... Là, vous avez fait un très, très beau track, très complet, très clair, qu'on mettra en lien sur le site en rediffusion. Et donc, aujourd'hui, comment se positionnent les communautés... Enfin, les communes de la communauté de communes. Il y a donc des communes qui sont pour la régie publique. D'autres, est-ce qu'on peut faire un petit point
quand on parle des communes, pour l'instant, au départ, c'était quand même les maires. Et puis après, il y a eu un peu d'élargissement jusqu'aux conseils municipaux, mais c'est rarement arrivé jusqu'aux habitants. Puisque quand nous, on a consulté très brièvement les habitants cet été pour signer une pétition, entre le 15 août et début septembre, on a quand même réussi à avoir 1300 signatures, et avec des gens qui tombaient des nues de savoir que leur maire avait dit qu'il préférait partir avec Veolia, alors qu'eux n'étaient absolument même pas au courant de ce qui se tramait. Donc nous, la première chose qu'on a demandé, c'était d'associer la population. On ne peut pas déplorer que les gens ne viennent pas voter aux élections, telles qu'elles soient, mais même municipales. Et quand il y a quelque chose d'important qui les concerne tous, qui les touche au plus près, puisque l'eau est un bien commun, mais qui les touche aussi au porte-monnaie, ils ne soient même pas informés de ce qui se passe. Et on pourrait aussi penser en 2024 à des concertations. Ça se passerait peut-être beaucoup mieux que ce qu'on voit se passer actuellement avec des choses qui sont décidées d'en haut pour les gens qui sont au plus près du terrain.
C'est vrai que du coup, là, c'est vraiment l'eau qui coule dans les robinets, donc la facture d'eau, parce que du coup, les retours d'expérience de toutes ces communes à Aix-Lyon qui ont fait du public, puis du privé, qui sont revenus au public, c'est une explosion des tarifs, très clairement, concrètement.
C'est souvent une explosion des tarifs, mais forcément, puisqu'il faut quand même rémunérer les actionnaires des multinationales. Donc voilà. Après, ce serait aussi pour nous une perte en fait de la connaissance patrimoniale de notre réseau, un éloignement des services des citoyens. Je veux dire, on a déjà dépossédé les mairies de nombreuses choses. Les gens ne viennent plus en mairie pour demander leur permis de construire ou leur carte d'identité. Actuellement, ils viennent quand ils ont un problème sur leur facture d'eau. Ils viennent pour nous faire les chèques parce que tout le monde n'est pas très à l'aise avec l'écrit. Ce sont les employés communaux et les élus qui vont relever des compteurs, ce qui crée aussi un lien particulier avec la population. On peut faire travailler le plombier du coin, même s'il ne sait pas remplir les procédures de marché public, parce que quand il faut réparer une fuite à 9h ou un dimanche, vous êtes très content que ça soit la personne qui soit au plus près de votre territoire qui vienne travailler. Tout cela deviendrait totalement impossible, puisque si demain, ce que prévoit la communauté de communes se passe, c'est-à-dire que c'est la SEM ou un délégataire qui gère notre réseau d'eau, la seule chose qu'on pourra faire, c'est lever notre téléphone et appeler le délégataire. Et donc, les personnes, nos employés communaux, aussi bien au niveau du secrétariat, puisque la secrétaire passe quand même un certain temps à s'occuper du budget de l'eau, à payer les factures, et puis à tout un travail de secrétariat sur ce budget-là, que le cantonnier, l'agent technique, qui passe aussi toutes les semaines un certain nombre de temps à la station d'épuration, à s'occuper que tout marche bien et sur le réseau d'eau aussi, ces personnes-là vont se retrouver sans ce travail-là. Donc comme j'explique moi à mes administrés, je dis non seulement l'eau va augmenter, puisqu'il y a quand même de fortes chances que tout ce travail de bénévolat qui est actuellement effectué par les élus soit facturé fort cher par les agents de la SEM, mais en plus les impôts vont augmenter, puisqu'il va falloir reprendre sur le budget général tout ce qui est payé par le budget de l'eau actuellement.
Et il y a aussi la question du lien social, voilà, sur ces territoires ruraux extrêmement, enfin assez plutôt enclavés. Enfin, je veux dire, Montlot, Cruis, Saint-Étienne-les-Orgues ne sont pas les mégalopoles les plus, notables de France. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie proximité quand on habite dans les villages où effectivement vous dites le plombier du coin, mais en fait il y a aussi une question de l'emploi, parce que du coup toutes ces personnes qui travaillent aujourd'hui directement ou indirectement sur la question de l'eau vont donc être dessaisies de cette charge-là, et donc il y aura des employés ex nihilo. Enfin c'est des...
Oui, c'est ce qui est prévu. Après, on nous explique donc que ça serait que pour une courte durée de 5 ans. Mais en 5 ans, ben, vous avez perdu complètement la compétence et la connaissance de vos réseaux. Et puis, les personnes qui travaillent, ben, c'est du jour au lendemain qu'elles vont se retrouver avec moins d'heures à effectuer. Donc, effectivement, moins d'emplois locaux. Le plombier, lui, c'est effectivement du jour au lendemain que vous ne pourrez plus le faire travailler et qu'il ne sera pas capable de candidater. Et ce n'est pas un défaut. Mais on ne peut pas tout savoir faire dans la vie, il ne sera pas capable de candidater pour Veolia. Et donc, il va se retrouver avec aussi cette perte sèche de revenus. Et on nous explique que dans 5 ans, les personnes qui ont travaillé pour le délégataire vont être réembauchées par la communauté de communes. Mais j'ai quand même de gros doutes pour que ce soit des gens qui viennent, parce qu'ils ne travaillent pas non plus pour les mêmes salaires que nos employés communaux, les personnes qui travaillent pour Veolia, et qu'ils viennent habiter à Montlo, à Sigons ou à Cruis, peut-être à Fort-Calquier, mais certainement plus à Aix ou à Marseille.
C'est vrai que moi, du coup, j'assiste parfois aux conseils municipaux, donc dans les communes de la communauté de communes, et c'est la façon dont ça a été présenté par une mairie, ou donc, pareil, un village où il y a 200-300 habitants, c'est, mais en fait, ça va apporter un dynamisme. Il va y avoir de nouvelles personnes qui, en fait, au bout de 5 ans, auront installé leurs habitudes dans le coin, donc elles vont s'installer, ça fera des familles, ça va remplir les écoles, et elles reviendront travailler pour le public dans 5 ans. Mais c'est extrêmement idyllique,
c'est extrêmement mensonger, quoi. Je pense, je sais pas qui va y croire exactement, parce que je répète, les salaires que nous offrons à nos employés communaux qui effectivement vivent et travaillent au pays ne sont pas les mêmes que ceux qui vont demander les employés de la SEM et qui ont d'autres contraintes, qui sont justement pas des locaux et qui font de nombreux kilomètres pour aller travailler. Actuellement, on le voit, hein, ça se passe, et c'est très quand même aussi intéressant d'avoir les retours d'expérience des voisins, notamment la commune de Lardier qui est déjà en délégation depuis des années, la commune de Pierre-Rue, qui est en procès quand même avec le délégataire qui est la SEM. Donc c'est que tout ne se passe pas de façon aussi idyllique qu'on nous le présente. Ben, ils ne savent pas qui intervient sur leur commune. C'est des gens qui peuvent venir intervenir depuis Aix ou depuis Marseille. Ce n'est pas forcément du tout des locaux. Et puis nous, on a aussi le retour d'expérience de la commune de Malfougas, qui est sur une autre communauté de communes, qui est avec l'agglomération de Digne, et qui nous explique, puisqu'ils ont des problèmes de fuite, qu'avant, quand c'était leurs employés communaux, c'était réparé le jour même ou le lendemain. Alors que maintenant, avant que l'agglo de Digne leur envoie quelqu'un, ils attendent 3 ans et ils ont plus de fuites que ce qu'ils avaient, et donc des pénalités au niveau du syndicat de l'eau. Ils voulaient même avoir notre quota d'eau pour y remédier. La globalisation n'est pas forcément synonyme
de gage de qualité.
Mais
tout à fait, on voit... C'est un département extrêmement rural, où il y a peu de transport, etc. Et on voit, c'est notre quotidien à tous aujourd'hui. On tape beaucoup sur la voiture, mais aujourd'hui, nous, sans voiture, on ne peut pas vivre, on ne peut pas manger, on ne peut pas travailler. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, c'est un habitant des Alpes-de-Haute-Provence, c'est normal de faire 100-150 km dans la journée. Et effectivement, si les employés viennent des grosses agglomérations... Ça veut dire des délais d'attente.
L'eau, c'est vrai qu'il faut quand même peut-être faire un rappel historique. L'eau potable, par exemple, dans ma commune, est arrivée au robinet comme 1958. Donc c'est quelque chose qui est très récent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de gestion de l'eau. Au contraire, il y avait tout un travail sur l'eau. Moi, je suis donc maire d'une commune où il y avait jusqu'à 13 moulins, où il y avait des canaux, et tout ça était entretenu très régulièrement. Il y avait des puits, il y avait un lavoir, comme dans toutes les communes. Cette connaissance, elle existait, et ce travail d'entretien, il était fait, bien sûr, à l'époque, c'était peut-être beaucoup moins formalisé que ce l'est actuellement, mais il y avait ce qu'on appelle des journées de prestation où les gens payaient leurs impôts en prestation physique, c'est-à-dire que selon leur richesse, ils devaient donner plus ou moins de journées d'aide à la commune. Mais je pense que c'est très important d'impliquer les administrés, les habitants, avec ce qui se passe sur leur territoire. C'est très important que les gens sachent comment fonctionne un réseau d'eau. Et pour le futur, ça le sera d'autant plus. Ça va vraiment devenir un bien précieux. Et je pense qu'il va falloir qu'on se remonte tous les manches pour préserver cette ressource.
C'est évident qu'il faut prendre l'historique et la spécificité des territoires et qu'aujourd'hui, la globalisation n'est pas forcément la solution. Pour revenir donc aux actions du collectif au public Lure Fort Calquier, donc, ça a démarré plutôt cet été, c'est ça ?
Oui.
Et donc, ça a commencé très fort avec cette pétition. On peut revenir un petit peu dessus. Voilà. Et après, vous pouvez nous détailler les actions de cet automne, cet hiver, et puis les actions à venir, peut-être.
Donc, en fait, cette pétition avait pour but de demander à ce qu'avant le vote du Conseil communautaire, il y ait une concertation de la population. Le Conseil communautaire, malgré le fait qu'effectivement, il y ait 20% de la population de la communauté de communes qui signe cette pétition, n'en a pas tenu cas et est passé en force par rapport à ce vote. Depuis, en fait, même si dans le journal de la communauté de communes, le MOUV, on nous avait promis des réunions, il n'y a pas eu de réunion. Et donc, on a décidé de prendre le taureau par le corne. Mais il y avait aussi un événement à l'URSS qui avait permis sur le thème de l'eau et des usages de l'eau, qui avait permis justement de faire connaître des collectifs qui existent déjà sur la communauté de communes, la DLVA, et aussi sur la vallée du Jabron. Donc nous, ça nous a permis de nous sentir moins isolés. Et puis après, on ne se connaissait pas forcément les uns les autres, mais des gens de toutes les communes, c'est ça qui est très intéressant dans le collectif, ont décidé d'agir en fait pour faire ce qui avait été fait par exemple sur la DLVA, c'est-à-dire pour manifester leur souhait, eux, de s'investir sur ce sujet et de militer pour un service public. C'est pour ça que notre collectif s'appelle « Au public ». Lure Fort Calquier. Et le collectif, donc, a voulu continuer sa mission, c'est-à-dire d'informer les gens. Et là, on a informé les gens sous forme de tract, effectivement, qui a été mis dans les boîtes aux lettres, et tiré à 5000 exemplaires, et aussi sur les marchés. Et on a décidé, pour ne pas rester isolé, pour se donner un peu de hauteur de vue, d'inviter des experts nationaux, parce qu'il ne faut pas rester dans un entre-soi. Puis ce problème ne concerne pas que la communauté de communes de Lure Fort Calquier. Nous, évidemment, quand le transfert est anticipé, comme c'est le cas dans notre communauté de communes, en général, c'est pour partir au privé. Hein. C'est très rarement que le transfert est anticipé pour faire une régie intercommunale. Mais ce problème va se poser aussi bien sur la communauté de communes voisine de Manne qu'effectivement sur la vallée du Jabron ou que sur les autres communautés de communes du département. Donc, on voudrait faire profiter tout le monde, en fait, de ce débat, en espérant que pour eux, ça soit un préalable et que pour nous, ça nous apporte des solutions et qu'on réussisse à faire entendre notre voix, qu'on puisse choisir le mode de gestion et que les habitants puissent choisir le mode de gestion.
Du coup, là, aujourd'hui, vous êtes sur des modèles. Donc, rappelons-le, cette pétition, ça a été 1300 signatures. Donc, vous me dites 20% de la communauté de communes.
Oui, sur 10 000 habitants, oui.
C'est des chiffres impressionnants, 5000 tracts. C'est vrai que moi, avant que votre collectif nous contacte de manière institutionnelle avec les autres médias, moi, j'ai reçu les tracts plusieurs fois sur des marchés. Vous êtes extrêmement présent. Vous êtes extrêmement présent. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de ces deux événements de débat public qui sont donc le 2 février à Montlot, à la salle Culture et Loisirs, puis le 16 février à Nieuzel, à la salle municipale. Les deux sont à 19h, donc ils seront tous les deux en présence de Léo Walter, ainsi que des invités que je vous laisse présenter. Donc, vous allez présenter des extraits de Water Makes Money, qui est donc comment les multinationales transforment l'eau en argent. Donc, c'est un documentaire sur comment les multinationales transforment l'eau en argent. Vous allez passer des extraits, c'est ça, pas
oui,
tout le...
Oui, voilà. Non, le but, c'est quand même de débattre avec la salle. Donc, en fait, ces deux vendredis à 15 jours d'intervalle, ce ne sera pas le même extrait de film, ce qui fait que si les gens veulent venir les deux fois, ils peuvent. À part, effectivement, Léo Walter, ça ne sera pas les mêmes intervenants non plus qui vont venir les deux jours. Après, c'est un coup de femme. Venir les intervenants, ils viennent justement de loin. Après, c'est un peu le hasard que... Il y a à la fois le député du Rhône, mais qui se trouve être spécialiste
de l'eau,
de la gestion de l'eau.
Gabriel Amar
et Anne qui...
Et la deuxième, alors la deuxième...
Qui, elle, s'occupe justement de la gestion de l'eau pour l'agglomération de Lyon, avec effectivement, ça ne s'était pas bien passé en privatisation, ils sont revenus en gestion publique. Mais aussi Marc Lenné, qui est aussi un journaliste qui a écrit des ouvrages sur ce sujet. Donc, nous-mêmes, hein, ce qu'on attend de ces rencontres, c'est aussi de l'information, aussi de la hauteur de vue, aussi de voir ce qui se passe ailleurs, puisque ce sont des intervenants d'envergure nationale. Donc, on est très content d'avoir réussi à les convaincre de venir. Et pour financer, donc...
C'était ma question, je veux dire, en toute transparence, comment se finance le collectif ? Parce que les tracts sont très beaux, ils sont en papier glacé parfois. Comment se finance le collectif ?
Justement, en fait, à l'issue de ces soirées, ou pendant ces soirées, il y aura de la soupe et des boissons qui sont proposées, avec un but de collecter de l'argent pour financer, notamment aussi, ce qui a un coût, c'est les voyages des intervenants. Quoi. Ils sont logés chez certains membres du collectif. Mais bon, ça marche vraiment bien. Alors, on a trouvé des maraîchers qui nous ont proposé des légumes, d'autres pour avoir du pain. C'est un sujet qui est vraiment est tout à fait fédérateur. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui est vraiment important à mettre dans le débat public, parce que les gens se sentent concernés. Donc, s'il y a quelque chose pour lequel les gens veulent bien venir débattre, c'est de l'eau. Effectivement, pour beaucoup, ce qui compte en priorité, c'est la facture d'eau. Pour moi, je dis, c'est le juste prix. On le voit avec les agriculteurs actuellement, le service, et qu'est-ce qu'on paye, qui on paye. C'est, je pense, illusoire de faire croire aux gens que l'eau va être bradée dans les années à venir, mais il faut la gérer au mieux et au plus près et au local, comme d'ailleurs l'agriculture. C'est mieux de l'avoir au plus près de chez nous.
On va se laisser pour une petite pause musicale avec donc une musique que vous m'avez conseillée, c'est Imani, les voleurs d'eau, qui est une reprise d'Henri Salvador.
Il détourne la rivière, là-haut, là-haut. Il se moque de nos misères, là-haut, là-haut. Si la soif nous affaiblit et si nos sources sont taries, tout l'eau, trop d'eau, vont périr l'un après l'autre, là-haut, là-haut. Il faut sortir nos fusils. Là-haut, là-haut, il faut lutter pour nos vies. Mais d'abord il nous faut parler à ces gringos. Nos terres sont les plus fertiles, c'est l'eau, et nous vivions si tranquilles de nos travaux. Quand nous montions dans nos bars, lorsque nous pêchions dans le lac. Heureux, heureux, ils veulent construire un barrage. Là-haut, là-haut, c'est la vallée qu'ils saccagent. Là-haut, là-haut, ils inonderont nos villages et nous mettront dans des cages. Là-haut, comme des corbeaux, nous devons les empêcher. Là-haut, là-haut, de détruire nos foyers. Si beau, si beau, tous les hommes vont s'armer, toutes les femmes vont les aider. Il faut de l'eau, il faut de l'eau, de l'eau, de l'eau. Des contrats, c'est tout, qui leur donne tous les droits sur nous, ils veulent nous rayer du temps et puis du monde des vivants pour de l'argent, l'argent. Que ferions-nous dans leur ville, tombeau, tombeau, comme des tigres qu'on exile. C'est pourquoi jusqu'au dernier, nous lutterons pour exister. l'eau, de l'eau.
Donc c'était Imani, les voleurs d'eau, qui est une reprise d'Henri Salvador, pour rester dans le thème de l'eau. Je suis toujours avec Camille Feller, maire de Montlot et membre du collectif Au public Lure Fort Calquier, pour discuter de la question de l'eau suite aux mobilisations du collectif Au public Lure Fort Calquier, qui milite pour une gestion de l'eau en service public et non en privatisation, comme c'est le cas à Fort Calquier et dans d'autres communes. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler des événements à venir au mois de février, où il y aura donc des débats publics le 2 février à 19h à Montlot et le 16 février à Niozel à 19h toujours, avec une projection de Water Makes Money, donc comment les municipalités transforment l'eau en argent, avec l'intervention de députés du Rhône pour revenir sur le retour d'expérience, la sortie de la privatisation du Rhône suite au fiasco, et un journaliste assez connu sur la question, Marc Lémé. Donc vous êtes là pour inviter les populations à s'informer, à venir à ces débats où il y aura un buffet participatif pour aider le collectif.
Oui.
Et donc on revient sur les questions un petit peu plus généralistes. Donc derrière, sous-tend la question de la démocratie. Quelle est la démocratie locale? Quelle est la place des administrés aujourd'hui dans des questions qui les concernent directement? On parle des gens qui ne vont plus voter, mais pourquoi on arrive à cette situation? Je vous laisse.
Oui, il ne s'agit pas d'opposer la démocratie participative avec la démocratie représentative, mais quand on est amené à devoir prendre des décisions qui n'ont jamais été annoncées dans le programme, eh ben, moi, il me semble que c'est la moindre des choses d'en avertir et de consulter la population avant, parce qu'ils ne nous ont pas donné un blanc-seing pour le faire, quoi. Après, c'est vrai que beaucoup de personnes de différents villages ont appris, à l'occasion de la signature de la pétition, ce que leur mairie avait déjà voté plusieurs mois avant. Et donc ça n'a pas fait plaisir aux élus, le fait que, comme ils nous ont dit, vous avez mis le doute. Mais il me semble qu'avant de décider, c'est bien d'envisager tous les aspects de la question et éventuellement de douter, quoi. L'enjeu de l'eau pour les années à venir, je pense que tout le monde doit comprendre que ça sera vraiment une question centrale. Et c'est important que les citoyens s'emparent de cette question. On ne peut pas laisser à quelques élus qui sont aussi soumis à d'autres, d'autres contingences et d'autres pressions pour obtenir leurs subventions et tout ça, le choix de décider sans que personne soit au courant en catimini. Puis si on nous dit, comme on nous a dit, puisque ça fait longtemps qu'on le demande, que c'est trop compliqué en fait la question de l'eau pour que les administrés, les citoyens puissent le comprendre, on est quand même très étonné puisque l'État nous a demandé de consulter les habitants sur les zones d'accélération des énergies renouvelables et ça nous semblait hautement plus compliqué déjà à comprendre et à expliquer à la population que de comprendre qui devait gérer le réseau d'eau et les implications que ça pouvait avoir. Donc il nous semblait que vraiment cet argument était de tout à fait mauvaise foi, mais c'est une façon de faire. On l'a vu sur notre communauté de communes, on a eu le problème avec les poubelles. Eh bien, on nous a expliqué une fois que c'était décidé qu'on n'aurait plus de points de collecte. Alors il y avait peut-être des bonnes raisons, mais c'est vrai que si on pouvait discuter avant de décider, ça serait plus satisfaisant pour tout le monde. Ça serait une autre idée de la démocratie. Je pense que les mentalités évoluent, quoi. Si les gens ne viennent pas voter, c'est qu'effectivement, ils ont l'impression que on les représente, moi en tant qu'élu, on ne les représente pas vraiment, ou que quand c'est important, ça se passe pas là. Or là, c'est quelque chose qui se passe là. La commune a son mot à dire, la Comcom a son mot à dire pour un sujet qui sera primordial pour les années à venir. Parce que par exemple, pourquoi transférer la compétence eau à la communauté de communes, alors qu'en fait, il faudrait réfléchir en termes de bassin versant? Ça n'est déjà pas tellement de sens. Ça n'a déjà pas tellement de sens. Et puis après, ça doit être quand même au local qu'on doit s'intéresser à l'avenir de chaque village, puisque s'il n'y a plus d'eau, on ne pourra plus y habiter, quoi. Donc je pense que tout le monde est partie prenante sur ce sujet.
C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la question de la crise climatique, se posent les questions de la nature des biens communs et de la finitude des ressources. Donc ça vaut pour l'eau, ça vaut pour les énergies. Ça vaut, vous l'avez un peu mentionné, les agriculteurs, on est en plein dedans. Comment on peut aborder ce sujet, comment vous le voyez La question n'était pas claire, mais en fait, tous ces sujets, au fond, sont liés, parce que c'est vrai que nous, on a parlé ici à Fréquence Mistral de la question donc, des panneaux photovoltaïques qui posent beaucoup de problèmes aujourd'hui, où il y a une trentaine de communes qui sont en débat ou non, justement, par rapport à la ZADER, donc c'est la zone d'accélération.
Ça concerne toutes les communes, et justement, enfin bon, on voit bien que c'est compliqué, Enfin, moi, donc, j'ai une autre casquette, je fais partie de l'association des maires ruraux, à ce titre-là, je fais partie du grand atelier pour la transition écologique, et c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident pour les élus d'animer des réunions publiques, mais ça semble quand même que le débat est nécessaire. Et concernant donc les zones d'accélération des énergies renouvelables, moi, ce que j'ai dit, c'est que c'est pour une fois qu'on nous demande notre voix aux petites communes, c'est dommage de ne pas la donner. Et puis, on nous demandait donc de consulter la population, mais pas forcément de tenir compte des résultats de la consultation, mais d'expliquer comment on l'avait consultée. Et c'est vrai que la plupart des communes se sont contentées d'un questionnaire parce que ils avaient peur un peu, je pense, de l'affrontement. Mais de là naît le débat. Moi, c'est vrai qu'on a fait plusieurs réunions à Montlot avec des avis très tranchés dans la salle. Je ne dis pas qu'à la fin, les avis soient devenus convergents, mais au moins, les gens ont pu entendre des arguments autres que les leurs, quoi. Après, c'est vrai que concernant les ZADER, c'était le conseil municipal... pouvait voter en son âme et conscience, mais au moins après avoir entendu les gens qui se sont manifestés. Donc on était libre. Après, on était même libre de ne pas y répondre. Certaines communes n'ont pas voulu y répondre. Moi, je trouvais que c'était dommage. Après, c'est vrai qu'il y avait un problème de calendrier, puisqu'on était censé rendre notre copie, avoir consulté la population pour le 22 septembre. Or, juillet, août, c'était très difficile d'avoir accès aux services de l'État et aux données qui auraient été peut-être nécessaires pour faire une présentation cohérente de ce qui se passait déjà, un état des lieux de ce qui se passait déjà sur notre commune pour préserver l'avenir. Et concernant la transition écologique, c'est vrai que c'est en tout cas une réflexion que mène l'Association des maires ruraux, c'est comment engager aussi la population et comment essayer d'arrêter de cliver les gens les uns contre les autres, parce que si tout le monde part coup de poing tout fait, on ne va pas s'en sortir pour aucun sujet. Mais pour l'instant, c'est vrai que le fait que les élus aient des comptes à rendre aux administrés, autre que tous les 6 ans quand on repasse le vote, n'est pas forcément entré dans les mœurs, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai entendu sur la réunion sur les poubelles, mais quand vous serez à notre place, vous ferez différemment. La question n'est pas forcément là. C'est qu'on peut accepter les critiques, et tout le monde est critiquable, autre que tous les 6 ans, quoi. Mais la démocratie et la transition écologique, il n'y aura pas de transition s'il n'y a pas eu d'adhésion de la population, parce qu'on va quand même demander à tout le monde de faire un sacré effort. Et là, je pense qu'il faut se préparer à savoir parler aux gens et à savoir tenir compte aussi de ce qu'ils nous disent. Ce n'est pas parce qu'on a été élu qu'on est devenu omniscient, quoi. Nous, c'est vrai que ce collectif a permis justement de mutualiser les compétences. Et puis le fait de rencontrer d'autres collectifs et de voir de ce qui se passait ailleurs fait que depuis quelques mois, on est devenu beaucoup plus expert sur le sujet que ce qu'on était précédemment, quoi.
Mais c'est vrai que tous ces collectifs, là qu'on suit de près ou de loin, la première et parfois l'unique demande, c'est l'information et la consultation du public. C'est en fait le béaba des demandes. Je veux dire, là, vous souhaitez, vos revendications sont d'aller vers la gestion publique de l'eau, oui, mais votre seule et unique revendication pour l'instant, c'est celle d'informer, de consulter le public. Et on en est quand même, c'est ce que vous disiez, on est... Au-delà de la... Enfin, il ne faut pas opposer démocratie représentative et participative. Mais effectivement, c'est un petit peu... comment expliquer ? Enfin, d'un côté, pour les énergies renouvelables, l'État exige que vous consultez le public. De l'autre côté, pour l'eau, non. Enfin, ce serait compliqué. Comment vous faites au quotidien?
Oui, ben, c'est assez compliqué. Et après, il faut quand même essayer de donner la formation la plus juste possible. Parce qu'effectivement, il y a des comme vous discutez, puisqu'on discute, puisqu'on est en collectif, on va sur le marché, on va à la rencontre des gens. Les gens disent, mais de toute façon, on n'avait pas le choix. Mais de toute façon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et bon, il y a des fois des choses qu'on comprend en première approximation qui ne sont pas forcément vraies. Et c'est pour ça que c'était important pour nous de faire venir des gens qui ne soient pas des gens, enfin, des gens du coin, qui n'aient pas un enjeu local, mais qui puissent donner une information qui soit la plus claire et partielle possible. Parce que, notamment sur la gestion de l'eau, il y avait tout à fait possibilité de faire différemment de ce que, pour l'instant, le Conseil communautaire a voté. Et comme, pour l'instant, rien n'est fait avant le 1er janvier 2025, on espère pouvoir infléchir, bien sûr, sur cette décision. Concernant les zones d'accélération, c'est vrai qu'il fallait faire tout très vite, et ça n'a pas été forcément simple, mais c'était quand même une opportunité d'enclencher le débat. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit la sous-préfète. Elle dit, nous, ce qui compte, c'est qu'on sache qu'il y a eu un débat au sein du conseil, c'est pas juste la réponse du maire, et qu'après il y a eu un débat avec la population. C'est déjà une première forme, même si le sujet est tout à fait complexe, les zones d'accélération des énergies renouvelables, puisqu'après il y a une question d'urbanisme, de PLU et de choses comme ça qui se juxtaposent. Vous nous demandez comment on fait, mais c'est vrai que c'est assez complexe, toutes ces lois qui changent, puisque la loi sur les énergies renouvelables, elle date de mars 2023, donc elle est quand même assez récente, et que là aussi, on a des fois l'impression, quand on est maire d'une petite commune avec un travail à côté, que le fait que les lois changent en permanence et se juxtaposent fait que ce soit difficile à suivre et qu'après on nous dise, vous voyez que vous n'êtes pas capable. C'était un peu le problème pour la consultation. On s'est dit, si aucune commune ne rend sa copie, on va leur dire, vous voyez que vous n'êtes pas capable de vous occuper des énergies renouvelables, que ça devrait se passer à un autre échelon. Donc moi, j'ai pas mal milité auprès de mes collègues pour dire, faites la consultation, rendez votre copie même si elle est imparfaite, mais montrez que vous êtes partie prenante et que vous ne vous dessaisissez pas des sujets. Et c'est pareil pour l'eau. C'est dommage de s'en dessaisir en se disant, certainement d'autres feront mieux que moi et d'autres seront mieux gérés que moi. Si les anciens savaient gérer ce patrimoine, on doit pouvoir pour le faire aussi. Personne, comme on dit, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Je pense que ce dicton, il est vrai quand les gens ils sont attachés à leur réseau d'eau, à leur patrimoine, ils en prennent soin, ils savent que c'est aussi leur outil de travail. Moi, je parle d'expérience puisque je suis un village extrêmement agricole où ils n'ont jamais voulu construire pour garder l'eau pour l'été, pour les agriculteurs, pour arroser. Et je peux vous dire qu'ils sont très attachés à ce patrimoine.
Vous voulez dire un mot sur l'agriculture ou pas ?
Sur l'agriculture, nous, on est parti du même constat. Donc, comme j'expliquais, nous, on a un village où dans les années 70, il y avait 22 exploitations. Maintenant, il en reste 14. Et il nous semblait quand même nécessaire de soutenir et maintenir, puisque il y a quand même pas mal d'éleveurs, que l'élevage, des fois, n'a pas bonne presse. Je peux m'en témoigner même auprès de mes enfants et des amis de mes enfants. Et on a beau leur dire qu'il y a certaines terres qui sont des terres pour faire brouter des vaches et où on ne fera pas beaucoup d'autres choses, ça passe pas forcément bien. Et on a voulu faire construire un restaurant donc, qui a obtenu le label Bistrot de Pays, dans ce but-là, que ça soit vraiment la vitrine du travail des agriculteurs. Et je dois dire que ça marche très bien, parce qu'on a choisi un très bon restaurateur. Je peux faire de la publicité au passage. Donc, c'est le Moularin à Montlo. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand même de voir des producteurs du coin arriver avec une caisse de volaille bio et pour des jeunes, parce que c'est beaucoup des jeunes, aussi bien pour, pareil, pour les bovins, ils achètent une vache entière qui découpe entièrement la carcasse. Bon, les gens ne sont pas habitués à ce qu'on cuisine toutes les parties d'un animal. Il y en a encore qui me demandent pourquoi est-ce qu'il ne va pas à Métro pour acheter que des blancs de volaille. Mais moi, je suis quand même très satisfaite et très fière, en fait, et je l'ai montré la photo de chaque lors de mes voeux, de que ça fasse vivre à peu près 13 ou 14 familles, je veux dire, dans cet établissement. Même le sirop, c'est des produits, c'est des locaux qu'on fait travailler. Et ça, c'est une volonté. Je veux dire, les gens acceptent, quand ils vont dans ce restaurant, de payer un peu plus cher parce que le pain, il vient de Cruisse, la viande vient de Montlo, le fromage vient de Montlo, la volaille vient de Sigonce. Ils le savent et le rapport qualité-prix, il est très bon. Et on sait qui on fait travailler. Dans le restaurant, il y a des expositions. Il y a les photos des producteurs, ce sont des gens. Après, voilà, c'était un choix, c'est un choix, voilà.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Je vais me faire l'avocat du diable en disant, est-ce qu'on ne risque pas, du coup, avec cet ultra-local, un repli sur soi? Est-ce qu'il n'y a pas de chance, quand même? Il y a des aspects positifs à l'ouverture, parce qu'on disait tout à l'heure, la globalisation, on perd en qualité et en rapidité de service par rapport au plombier du coin, qui ne saurait pas répondre à un marché public. Là, pour l'alimentation, on est d'accord qu'il faut tendre à l'autosuffisance vu les aléas climatiques. Mais est-ce que du coup, de l'autre côté, je me fais l'avocat du diable, est-ce qu'il n'y aurait pas des côtés positifs à la globalisation où en fait il faut qu'on revienne à des démocraties locales
Je pense quand même qu'on doit soutenir l'emploi local. On doit payer, moi je suis prête à payer, je sais qui je paye, je sais qui je fais travailler et je sais la qualité de ce que je mange. Mais c'est surtout que, on le voit, je veux dire, les gens qui sont sur les barrages actuellement, ils vous disent qu'on ne paye pas le juste prix. Sais que, et ils peuvent tous en témoigner, que le restaurateur ne négocie pas le prix avec les producteurs. Si le producteur, parce que ça arrive, par exemple, si on vend une bête entière, c'est tel prix, et puis si on vend que le caravan, ça en est un second, on discute pas. Je veux dire, c'est une volonté et de la commune et du couple de restaurateurs, de soutenir ces circuits courts. Et ça, je pense que ça n'empêche pas, effectivement, que s'il fait de la dorade, elle viendra sûrement pas du Lauzon. Et qu'il nous l'a demandé dès le début, est-ce que vous acceptez que je fasse du poisson? On lui a dit, oui, on va pas, effectivement, forcément manger uniquement que ce qu'on peut trouver à 10 km autour de mon lot, mais il faut en avoir conscience, il faut savoir, je pense, et il faut éduquer les gens au fait qu'il y ait des saisons et au fait de ce qu'on peut trouver, ce qui vient de près, ce qui vient de loin. Tout est indiqué, tout est transparent sur la carte, je veux dire, il n'y a pas de surprise pour les gens. Je ne pense pas que ça soit un repli. Je pense qu'il faut une ruralité vivante et il faut qu'on se soutienne les uns les autres. Et ce lien qu'il y avait auparavant entre des personnes qui vivaient sur une commune et qu'il y avait une unité de travail, c'est un peu perdu parce que pendant des années, les gens prenaient leur voiture pour aller à travailler à Cadarache ou ailleurs faire des kilomètres. Mais ça aussi, ça va peut-être être de plus en plus compliqué quand on voit le prix de l'essence et la pollution que ça génère. Donc c'est une façon de vivre qui peut-être au départ apparaît archaïque. Moi, je sais qu'à Montlo, les gens disaient « Mais pourquoi vous n'avez pas construit ? Les autres, ils ont triplé leur taxe d'habitation et pas vous. » Eh bien, on est quand même bien content d'avoir réussi à maintenir ces exploitations, d'être effectivement, d'avoir de l'eau à profusion par rapport à d'autres communes qui ont beaucoup construit mais qui n'ont plus d'eau l'été. Moi, je ne vois pas ça comme un repli, mais plutôt comme un accueil d'un possible dans nos communes.
Je faisais un petit peu l'avocat du diable comme ça, mais je viens de me rappeler, en fait, on a pu entendre dans les conseils municipaux, dans les vœux de mairie, des discours un petit peu de repli de certains habitants, quand même.
Ah oui, totalement. Des choses qui sont presque que xénophobes, oui, qu'on peut entendre ou qu'on a entendu.
Comment on fait pour soutenir le local, la démocratie locale et participative et l'implication des personnes sans tomber dans le repli, et quels bénéfices on peut trouver tout de même à l'ouverture? J'ai envie de dire que le premier bénéfice, c'est que si on ne mange que Alpes de Haute-Provence, on mangera du petit épaule toute notre vie et plus jamais de riz, je vais dire la Camargue, avec moi, oui. C'est pas loin, mais non. Ou de pâtes, quoi qu'il faut, les pâtes aux petites épaules, mais voilà, il y a ces avantages-là, bien entendu, on va pas les... Mais voilà, comment on fait pour jongler entre ces deux choses? Parce que d'un côté, être en département, région, nationale, Europe, nous apporte aujourd'hui quand même des bénéfices, non? Oui.
Oui. Oui, je pense qu'on peut pas à la fois vouloir toujours manger de tout dans toutes les saisons et payer tout pas le juste prix, justement, et puis après dire les pauvres agriculteurs ils arrivent pas à vivre. Enfin, je pense que c'est quand même normal que les agriculteurs soient payés pour leur travail et qu'on se rende compte justement de la difficulté et du coût réel des choses, quoi. On peut pas continuer à pas payer les choses le juste prix, après payer des impôts ou payer les gens qui sont au chômage parce qu'ils n'ont plus de travail et ainsi de suite. Moi, je pense qu'au contraire, quand vous avez un village qui est vivant, où il y a des jeunes, parce que les agriculteurs sont des jeunes, il ne faut pas avoir l'idée qu'ils ont tous 65 ans. Si d'être agriculteur, c'est vivable. Moi, j'ai cette année deux couples d'agriculteurs qui s'installent sur ma commune, dont un jeune qui a grandi au village. Je veux dire, s'il le fait, c'est qu'il voit que d'autres, parce qu'avant de faire ça, il a fait quand même autre chose, quelques études. avant, et sa compagne aussi, s'il voit que c'est rentable, qu'il peut en vivre, eh ben, tant mieux. Je veux dire, ça permet de garder la commune qui soit accueillante, qui soit vivante. Et le repli, c'est justement quand tout se meurt, c'est quand tout ferme et qu'il ne reste plus rien. Là, on va carrément se replier sur nous, mais on va mourir, quoi. Je veux dire, si on n'est pas capable de montrer que la ruralité peut être vivante, attractive, avec aussi des événements culturels, parce que c'est aussi très important et c'est notre nourriture, c'est fini. Moi, effectivement, je suis très choquée quand j'entends des gens qui disent « on est chez nous, restez chez vous » ou « vous n'êtes pas là depuis 15 générations, donc vous n'avez pas à décider ». Je pense que la terre est à tout le monde, mais il faut que la terre soit vivante pour tout le monde et que les gens puissent vivre dignement de leur travail.
Sur ces belles paroles, je vais nous mettre une petite pause musicale pour que nos auditeurs puissent imprégner de toutes ces informations. Et on reviendra juste après pour faire un rappel, donc comment contacter le collectif, quels sont les événements à venir. Mais en attendant, on va écouter Henri Dess, « L'eau, c'est de l'or ».
L'eau, c'est de l'or, regarde bien. Il y en a encore jusqu'à demain. L'eau c'est de l'or, prends-en bien soin. C'est un trésor entre tes mains. Oui mais demain, comme par hasard, un beau matin, il sera trop tard. Et tu verras ce que tu vas voir quand on aura rien à boire. L'eau c'est de l'or, regarde bien, il y en a encore jusqu'à demain. L'eau c'est de l'or, prends-en bien soin, c'est un trésor entre tes mains. Dans tous les lacs ne restera qu'une ou deux flaques, ici ou là. Quelques poissons un peu perdus qui tournent en rond, qui tournent plus. L'eau c'est de l'or, regarde bien, il y en a encore jusqu'à demain. L'eau c'est de l'or, prends-en bien soin, c'est un trésor entre tes mains. Le jardinier pourra pleurer lorsque ses fleurs seront fanées. Il va sans doute la regretter, la dernière goutte au robinet. L'eau c'est de l'or, regarde bien, il y en a encore jusqu'à demain. L'eau c'est de l'or, prends-en bien soin. C'est un trésor entre tes mains. L'eau, c'est de l'or.
On se retrouve pour donc cette dernière partie avec Camille Feller, maire de Montlot et membre du collectif Au Public Lure-Fort-Calquier, qui défend une régie publique. Je vous laisse nous réexpliquer mieux que moi les revendications en quelques mots, pour ceux qui ne nous auraient pas suivis tout le long. Et ensuite, nous dire comment on peut vous retrouver, vous contacter. Et à la fin, on redonnera bien les dates de février pour les événements, les débats publics et les projections documentaires. À vous le micro.
Oui, donc le collectif milite pour garder l'eau en gestion publique, la garder ou la retrouver pour ceux qui l'ont perdue sur la communauté de communes Pays de Fort-Calquier, Montagne de Lure. On propose d'abord de l'information. Donc l'information se fait sous forme de deux réunions publiques où on a déjà fait un tract, on a une page Facebook, un groupe Facebook au même nom, donc Au Public Fort-Calquier-Lure. Et on vous invite à deux réunions publiques qui seront sur le même thème mais quand même différentes, vous pouvez venir aux deux, parce que même s'il va y avoir la projection d'un documentaire, c'est pas la même partie du documentaire, c'est effectivement comment est-ce qu'on transforme l'eau en argent, en argent. Et des intervenants qui seront aussi différents à Montlo le 2 à 19h, vendredi 2 à 19h, avec des soupes et des crêpes, puisque c'est la Chandeleur, vendredi 2. Et le 16 à Niozel, avec de la soupe, et je ne sais pas s'il y aura des crêpes. Mais bon, donc l'idée, c'est que la vente de cette soupe permette de financer les frais qu'a eu le collectif, notamment pour faire venir des intervenants nationaux. Et si cela se passe bien, on pourra faire d'autres réunions publiques dans d'autres villages, puisque vraiment l'idée pour l'instant, c'est de faire infuser le débat, parce que rien n'est fait même sur notre communauté de communes, et tout reste à faire sur les autres communautés de communes, puisque pour l'instant, les décisions n'ont pas été prises. Donc on invite aussi largement les habitants des autres communautés de communes, notamment celle de Manne ou celle du Jabron, puisqu'il y a quand même des réflexions qu'il faut avoir. Et on voudrait vraiment que les habitants se saisissent de ce sujet et en comprennent tous les enjeux.
Merci donc pour ces informations. On rappelle donc que vous avez un groupe Facebook, c'est ça ?
Oui, qui s'appelle Au public, Lurfort-Calquier. C'est pas très original, c'est le nom du collectif.
Et voilà, donc une adresse, je vous lis l'adresse email, je l'ai sous les yeux. Donc lur, lure-6, fortcalquier@gmail.com. Donc je sais pas, est-ce que vous avez des newsletters, des lettres d'infos ou pas plus ? Je sais pas.
Alors là, pour l'instant, donc le flyer est assez récent.
Oui.
Mais en tout cas, ce qu'on met régulièrement à jour, c'est la page Facebook. Et le groupe où on partage différentes informations, dont certaines sont tout à fait officielles de l'ADEME sur les eaux souterraines, par exemple.
Effectivement, il y a deux choses. Donc il y a une page publique au public Lurfort-Calquier et il y a un groupe qui s'appelle le 2 février à Montlo à 19h. Sur comment les multinationales transforment l'eau en argent, en présence de Léo Walter, Gabriel Amar, député du Rhône, et le 16 février à Niozel à 19h, avec toujours Léo Walter, et Anne Gros-Perrin, vice-présidente de la métropole de Lyon, chargée des questions de l'eau, et Marc Lémé, journaliste expert des politiques publiques de l'eau.
Oui, il y aura aussi donc des membres d'autres collectifs. Et puis des élus et des membres du collectif. Okay. Et le but, c'est quand même de ne pas faire de l'entre-soi, mais de discuter avec les gens qui viendront.
Donc on n'oublie pas de prendre de la monnaie pour le buffet, pour soutenir. Et donc on répète à Montlo le 2 février à 19h et à Niozel le 16 février à 19h. Plus d'informations sur Facebook, donc au public, Lurfort-Calquier. Je vous laisse en musique. Est-ce que vous avez un dernier mot ou tout a été dit ?
Ben non, je vous remercie.
Eh ben, à très vite. J'imagine qu'on se verra le 2 février. Je vous laisse avec Placebo, The Bitter End, qui n'a aucun rapport avec l'eau, mais on était à court de musique sur l'eau.